Merci Sophie, merci Daniel aussi pour ce temps. Nous avons pu réfléchir sur la croix, sur Jésus, notre centre. Avant de partager la parole de Dieu, je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour ta présence ce matin avec nous. Nous te remettons ce temps pour que tu puisses vraiment nous parler dans notre cœur, pas seulement dans notre tête, dans notre intelligence. Seigneur, sois avec nous. Que ton esprit nous guide et nous inspire, nous transforme. Au nom de Jésus. Amen. J'ai l'impression qu'on est vraiment enfin en été. N'est-ce pas? Avec le soleil radieux. De notre maison, on voit la piscine de Vendeuvre. Et là, hier, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient heureux de prendre du soleil, en tout cas, de se bronzer, etc. On a un bon week-end ensoleillé avec une température d'été. Et ça, on se réjouit. En général, en été, on prévoit partir en vacances, n'est-ce pas? Je pense qu'on voit quand même pas mal de chaises vides. Pourquoi partir en vacances? Tout simplement pour se reposer et pour se décompresser de tous les stress qu'on a pu accumuler durant l'année. C'est comme ça qu'on souffle un peu. D'ailleurs, les activités en général tournent au ralenti. Hein, ça, vous remarquez. Même, j'ai vu les églises fermées pendant les vacances. Eh oui, bon, c'est des petites églises, hein, c'est pas des grandes églises. Des petites églises où ils n'ont pas forcément des personnes pour faire tourner l'église. Du coup, ils ferment l'église pendant une période. En tout cas, l'été évoque le repos. Cela ne veut pas dire qu'il faut entrer au repos dans notre relation avec Dieu. Hein, n'est-ce pas? Parfois, on a tendance, je suis en vacances, donc dans ma lecture personnelle, je laisse tomber un petit peu. Là, je profite vraiment. Non, ce n'est pas ça du tout. En fait, je dirais que, au contraire, l'été peut être une occasion. L'occasion de recentrer et de redynamiser cette relation intime avec le Seigneur. Pour cela, j'aimerais vous proposer un texte dans Éphésiens. On a lu ce matin Éphésiens 2. Voilà, on va lire dans Éphésiens 3, versets de 14 à 21, que j'aimerais vous lire ce matin. Maintenant, Éphésiens, chapitre 3, 14 à 21, je vous lis. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. C'est un peu compliqué, là. Il faut décortiquer un petit peu pour bien mieux comprendre ce texte. Chaque verset est très profond, en fait. Tout d'abord, je relis le verset 14 qui dit « à cause de cela ». En d'autres versions, on peut traduire par « c'est pourquoi ». C'est pourquoi. Qu'est-ce que cela veut dire quand on dit « c'est pourquoi » ? Il y a eu quelque chose qui était, enfin, des précédents. L'auteur nous invite en tout cas à réfléchir sur les passages précédents qui disent sur le Christ. Voilà, le Christ est notre vie. Nous avons vu ce matin que le Christ est notre roc. C'est le Christ qui nous unit. C'est le Christ qui nous forme une famille ensemble. Mais c'est surtout, c'est le Christ qui a tout accompli pour que nous soyons sauvés par la grâce de Dieu. Et que Dieu est riche en bonté. Il nous a aimés. Il nous a aimés. Il nous aime toujours. Et l'Église est remplie de son esprit. Même si nous n'avons pas mérité cette grâce. C'est ça un peu le résumé de succinctement du chapitre 1 et du chapitre 2. Et là, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Après avoir reçu toutes ces choses, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père. C'est quoi fléchir les genoux devant le Père? Vous savez, à l'époque, lorsque les Israélites priaient au Seigneur, ils avaient tendance à prier debout. Debout devant le Seigneur. D'ailleurs, dans Marc, on voit aussi dans Marc 11, 21, il dit « Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière. » Ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament, mais aussi à l'époque du Nouveau Testament, on avait tendance à prier debout. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, on voit souvent, même régulièrement, l'Israël prier debout. On voit ça dans 2 Chroniques 20, et puis il y a plein de versets qui parlent du peuple d'Israël qui était toujours debout pour prier. Bien sûr, on voit aussi des gens qui fléchissent les genoux pour prier. Souvent, lorsqu'ils étaient à genoux, c'est pour... parce qu'ils avaient une demande un peu particulière, comme par exemple Élie sur les monts Carmel, où il demande la pluie, et puis il y a Salomon aussi qui demandait la sagesse. À ce moment-là, il était à genoux devant le Seigneur. On voit aussi Daniel, après le décret du culte au roi, il risquait la mort, mais il s'agenouille pour prier comme d'habitude. L'agenouillement exprimait donc une supplication particulière. Il y a une insistance, une demande en implorant à Dieu, car c'est important comme sujet. C'est quoi, comme pourquoi alors? Au verset 14, donc, il est dit, à cause de cela, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père. Je fléchis les genoux devant le Père. J'implore quelque chose, je demande au Seigneur quelque chose de très important. C'est quoi? Au verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Je réexplique. Paul implore la bonté de Dieu pour les chrétiens. Paul implore la bonté de Dieu. Ce qui est le plus important pour Paul ici, ce n'est pas la prospérité financière ou la croissance de notre pouvoir d'achat, même si c'est important, bien sûr, pour bien vivre. Ce n'est pas non plus le succès de notre carrière ou de nos études ou de notre diplôme, obtenir un diplôme. Même si Dieu ne méprise pas ces choses-là. Au contraire, Dieu utilise ces choses pour sa gloire. Ce qui est le plus important pour Paul, ce n'est pas notre santé ou notre vie amoureuse, etc., etc. Ce qui est le plus important pour Paul, d'après ce verset 16, c'est que notre plus grand besoin pour cet été, notre plus grand besoin en tout temps, c'est d'être puissamment fortifié par son esprit. Ce n'est pas juste fortifié par son esprit, puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Dans l'homme intérieur. Si vous êtes chrétien, lorsque vous avez accepté Jésus comme Christ, le Sauveur, on reçoit l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qu'il avait promis, par lequel il vous a marqué, il nous a marqué de son sceau pour lui appartenir. Nous lui appartenons lorsque nous avons confessé Jésus comme le Seigneur, notre Sauveur. Mais là, il est dit, non seulement le Seigneur, l'Esprit de Dieu est en nous, mais il faut être, on doit être fortifié puissamment par son Esprit dans mon être intérieur, dans l'homme intérieur. Cette explication est encore redonnée au verset 17 qui dit « En sorte que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. » L'homme intérieur et le cœur, c'est la même chose. L'homme intérieur, le cœur, c'est quoi? C'est le centre de notre être. On peut dire ça le tour de contrôle. C'est par là où on commence à réfléchir. C'est le siège de notre volonté, de notre conscience et de notre choix, de nos pensées. Dieu, dont notre intérieur aimerait habiter complètement, prendre toute la place nécessaire. de manière définitive, non pas spontanément, mais de manière définitive. Il veut s'installer. Imaginez, le Christ vous accompagne tous les jours, en tout temps, quoi que vous fassiez. Ce matin, lorsque vous vous êtes préparé, vous dites, le Seigneur était là. Il vous a regardé, il vous a vu. Une autre situation, quand vous mangez, il est là. Imaginez, le Seigneur, il est là aussi quand tu marches, quand tu vas aux toilettes. C'est un peu dérangeant quand même. Quand tu travailles, quand tu es en contact avec les autres, quand tu vois tes voisins, quand tu discutes avec les gens, le Seigneur est là avec toi. Imaginons ça. Et puis, le Seigneur est là aussi quand tu pêches. Le Seigneur est là quand tu regardes la télé ou quand tu surfes sur Internet. Le Seigneur est là quand tu fais toutes tes activités. Le Seigneur est là quand tu disputes ou quand tu es dans la joie en voyant la France gagner, n'est-ce pas? Ouais. D'ailleurs, on va sûrement encourager ce soir. Hein? Là, on vient de se rendre compte que Dieu pourrait être là dans toute ma vie, tout le temps. Mais est-ce qu'il y a des moments où ça vous dérange quand le Seigneur est avec vous? Vous aimeriez qu'il ne soit pas là lorsque je regarde ou je pense, je fais quelque chose? Est-ce qu'il y a des choses que moi je dois changer pour que Dieu soit toujours là avec moi? Dieu est patient. Il aimerait qu'on change pour qu'il prenne toute la place de mon cœur. Il se peut qu'on ouvre un peu notre cœur à Dieu. Seigneur, oui, c'est vrai que tu es mon Seigneur. Je t'ai accepté comme Seigneur. J'ai la foi pour mon salut. Mais j'ai certaines chambres de mon cœur que je ne veux pas ouvrir. Parce que je n'ose pas. Parce que c'est personnel. Parce que c'est mon jardin secret. Et vous savez, le Christ aimerait progressivement. Il ne veut pas occuper tout de suite toute la place, mais il aimerait progressivement occuper toutes les pièces de mon cœur, de notre cœur. Qu'en dites-vous? Êtes-vous prêt à dire, Seigneur, oui, sois au centre de ma vie, comme nous venons de chanter tout à l'heure. C'est les vacances pour certains et puis ce sera les vacances aussi pour d'autres bientôt. Pourquoi ne pas ouvrir pendant ces vacances toutes les pièces de mon cœur à Dieu pour avoir une relation beaucoup plus fusionnelle, pour être plus à l'écoute de Dieu, à sa voix? À votre avis, c'est quoi qui vous gêne à avancer avec Dieu? On peut réfléchir tout seul. Qu'est-ce qui fait que je ne donne pas toute la place au Seigneur? Vous avez un jardin secret du péché? Peut-être que vous avez une blessure qui vous a marqué. Et ça, vous avez du mal à laisser guérir par le Seigneur. Êtes-vous toujours en colère peut-être suite à quelques événements et que vous avez du mal à pardonner à certains? Ou parce que vous ne donnez pas toute la place parce que vous avez une mauvaise caractère? Une certaine mauvaise caractère qu'on doit changer, que Dieu doit toucher. Mais que vous aimez garder cette mauvaise caractère en fait. Quoi qu'il en soit, Dieu peut nous transformer. Parce qu'il nous a accordé déjà son esprit. Parce que l'esprit de Dieu peut agir en nous. Il faut juste laisser ouvrir ce cœur, notre intérieur, notre être intérieur, à Dieu seul. J'aimerais vous donner un exemple d'une personne que vous connaissez bien aussi peut-être. Corrie ten Boom, on en a peut-être déjà parlé ici. Hein? Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais quand même vous résumer. Corrie ten Boom est un écrivain chrétien néerlandais qui a aidé de nombreux juifs à échapper aux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle avait installé une chambre secrète où elle cachait des juifs et d'autres clandestins avec toute sa famille. Elle n'était pas juive, elle n'était pas obligée de fuir. Mais justement, comme elle était néerlandaise, justement, elle pouvait avoir une relation normale et cacher justement les juifs qui étaient en fuite. En février 1944, la famille est dénoncée à la Gestapo. Et la famille ten Boom est emprisonnée, bien sûr. Et le père meurt après un mois en prison, à l'âge de 85 ans. Puis la sœur, Betsy, meurt aussi en décembre 1944. Puis quelques jours plus tard, Corrie est libérée. Corrie est libérée. Après sa libération, après la guerre plutôt, Corrie se donne complètement à des activités d'évangélisation. Elle prêche le pardon de Dieu en disant que voilà, moi, j'ai vécu des épreuves, mais je les pardonne. Cette prédication, elle faisait en tout cas dans plein de pays. En tout cas, elle a pu témoigner plus de 60 pays à travers le monde. Elle faisait beaucoup de conférences pour expliquer ce qui se passait pendant la guerre. Un jour, en 1947, pendant qu'elle faisait sa conférence, elle aperçoit celui qui avait été, quelques années auparavant, l'un des surveillants les plus cruels dans son camp de concentration. Après la conférence, il vient vers elle pour lui serrer la main, mais de toute évidence, il ne la reconnaît pas. Vous savez, dans les camps de concentration, on n'est pas nourri, donc comme ça, quoi. Et puis là, elle était devenue normale. Il ne pouvait pas la reconnaître. Entre-temps, ce bourreau, ce tortionnaire, était devenu chrétien. Il lui demande en tant qu'ex-prisonnière de lui pardonner toutes les cruautés qu'il a pu commettre au camp. Sur le coup, Corrie, on est incapable. Elle est bloquée, elle est figée. C'est normal, n'est-ce pas? Elle a, imaginez, dans la prison, elle a perdu son père, elle a perdu sa sœur. Comment vous pouvez réagir à ce moment-là? Je vais lire la partie dans son livre. Comment elle a réagi? Je fis cette prière en silence. Jésus, aide-moi. Bien sûr, je peux lever la main. Ça, j'en suis encore bien encore capable. Mais c'est à toi de me donner l'amour. C'est ainsi que d'un geste raide et mécanique, je pose une main de bois dans celle qui m'était tendue. Et il se produisit à cet instant quelque chose d'incroyable. Je sentis un courant naître dans mon épaule, traverser mon bras et jaillir dans nos mains serrées. Puis, cette chaleur guérissante sembla se répandre dans tout mon être. Et mes yeux s'emplirent de larmes. Je vous pardonne, frère, de tout mon être, de tout mon cœur. Nos mains restèrent longtemps serrées, celles de l'ancien surveillant dans celles de l'ancienne prisonnière. Je n'avais encore jamais ressenti aussi fortement l'amour de Dieu qu'à ce moment précis. Mais au même instant, je compris à nouveau qu'il ne s'agissait pas de mon amour. J'avais essayé, et à chaque fois, je n'en avais pas eu la force. C'était la force du Saint-Esprit. comme nous le lisons en Romains 5:5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est beau, n'est-ce pas? Elle n'a pas pu, de ses propres forces, lui pardonner. Mais parce que l'Esprit de Dieu a puissamment manifesté en elle, qu'elle a pu dire, oui, je te pardonne. Malgré tout ce que vous avez pu commettre contre moi et contre ma famille, je vous pardonne. C'est une expérience forte que non seulement Corrie peut vivre, mais aussi vous et moi. Bien sûr, on n'a pas perdu nos parents par un tortionnaire, mais on a pu peut-être vivre des choses, des épreuves, des injustices. Mais vous savez, l'amour du Christ n'a aucune limite pour pardonner les autres. Corrie ten Boom était chrétienne depuis des années, et pourtant, là, elle a dit, je n'avais encore jamais ressenti aussi fortement l'amour de Dieu. On peut être chrétien et jamais expérimenter ce genre de choses. Vous qui connaissez le Seigneur depuis un moment, ou peut-être depuis peu, est-ce que vous demandez encore à Dieu d'être scotché par cet amour immense? Je continue la lecture. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, au verset 18, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Remarquez bien aussi au verset 18 que cette expérience de l'amour du Christ se vit avec tous les saints. C'est intéressant. Cet amour de Dieu ne vit pas tout seul, mais surtout avec tous les saints. Un commentateur a écrit, « Le chrétien isolé peut certes saisir quelque chose de l'amour de Christ, mais ce qu'il en saisit restera confiné aux limites de son expérience personnelle. Pour comprendre tout l'amour de Dieu, il ne faut rien de moins que tout le peuple de Dieu. » La communion est très importante. Avec tous les saints, cette vie communautaire est très importante. Avoir des amis sur qui on peut compter est très important. C'est comme ça que nous pouvons mieux expérimenter cet amour de Dieu. Au verset 19, je continue la lecture. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Autrement dit, la connaissance de l'amour du Christ nous permettra, si nous donnons toute la place au Seigneur, l'Esprit de Dieu nous permettra de grandir, s'enraciner pour grandir. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Notre devise, s'enraciner, grandir pour porter du fruit. Mais tout d'abord, il faut d'abord s'enraciner. S'enraciner pour être rempli de toute la plénitude de Dieu. Cette maturité, on l'obtient par la parole de Dieu, par la connaissance de Dieu. Dans le livre « Si tu veux aller plus loin » de Ralph Challis, il est question de la parole de Dieu. Par exemple, l'auteur dit que, il parle de son expérience personnelle. Il avait rencontré Dieu à 18 ans, Ralph Charis. Et pendant la première année, il était vraiment dans l'extase, n'est-ce pas? Après avoir rencontré le Seigneur, on est tellement content de cette joie que Dieu nous met, cette paix intérieure que Dieu nous met dans notre cœur. Il a vraiment vécu une nouvelle vie magnifique dans la joie, dans la paix. Mais avec le temps, progressivement, sa vie devenait plus décevante. À l'âge de 23 ans, où il était près du désespoir, il se dit, comment ils font les autres? Et il commence à lire les biographies des hommes de Dieu. Et qu'est-ce qu'il remarque? lorsqu'il voit tous ces hommes de Dieu, ben, ils étaient ancrés dans la parole de Dieu. Même souvent, ils lisaient chaque année toute la Bible entière. Alors il s'est dit, ben, je vais les imiter. Hein, je vais lire une fois par an toute la Bible. Il a commencé à lire. Et il a trouvé cette discipline assez ardue. Vous savez, on ne peut pas changer notre nature du jour au lendemain. Hein, quelqu'un me disait, il faut 21 jours. 21 jours pour changer les habitudes. En tout cas, cette discipline ardue, ben, en quelques mois, est devenue une discipline de joie, de plaisir. Et Dieu a commencé à se révéler en lui, en son âme. Il a transformé sa pensée. Il a transformé tout son être. Et puis, il a vraiment vécu des choses incroyables. Ralph, donc Charis, s'adresse ensuite à un jeune homme de 20 ans, nouvellement converti, et il lui dit ceci. Si tu lis la Bible en un an, approximativement, cela veut dire qu'à l'âge de 30 ans, tu auras lu 10 fois. N'est-ce pas? C'est logique. Tu auras déjà une connaissance consistante des choses de Dieu. Tu seras déjà imprégné de toute sa pensée. Tu seras puissant, un homme de Dieu. À l'âge de 40 ans, tu auras lu la Bible une vingtaine de fois. Et tu seras un véritable prophète ou docteur. Tu auras un message pour la nouvelle génération. Tu seras une source d'inspiration pour tes enfants. Tu seras un pilier dans l'Église. À l'âge de 60 ans, tu auras lu la Bible une quarantaine de fois. Tu auras un message précieux et foudroyant pour jeunes et vieux. Tu sauras orienter l'Église et la sauver de l'erreur. Au lieu de passer à la retraite dans un oubli tragique, tu seras recherché de tous les côtés pour la lumière céleste que tu sauras apporter sur les questions de base et d'actualité. Ô mon frère, ô ma sœur, je te convoite pour Dieu, afin qu'il fasse de toi un homme, une femme de Dieu. Dans l'éternité, tu ne cesseras de bénir Dieu pour cela. J'ai presque envie de dire Amen. La parole de Dieu nous permet de grandir. Mais c'est vrai que c'est un disciple ardu, difficile, qu'on doit quand même prendre en compte, parce que c'est comme ça que nous pouvons entrer dans la maturité de Dieu. C'est comme ça que nous pouvons laisser toute la place à Dieu. Il n'y a aucune pièce de mon être où Jésus est interdit. Ça vous tente de vivre cela? J'aimerais conclure . Le Seigneur est bon, il nous aime, il a déjà tout accompli pour nous. Il aimerait entrer dans ma vie personnelle. Et parfois, on reste humain, on reste avec notre nature pécheresse qui est encore là, on refuse un certain domaine où Dieu entre dans ma vie personnelle. Laissez-lui le transformer ma vie, parce que Dieu a la capacité. Que le Seigneur vraiment nous façonne à son image. Pour cela, bien sûr, par notre propre effort, on ne peut pas, mais pourtant, quand on regarde Corrie, elle a prié quand elle ne pouvait pas. Elle a tendu la main. Jusqu'à qu'elle tend la main, c'était elle qui faisait les efforts. Sachant que dans son intelligence, c'était ça qu'il fallait faire. Mais lorsqu'elle a vraiment tendu, elle a fait les efforts, c'est à ce moment-là que Dieu a commencé à agir dans son être intérieur. Dieu peut faire ça en nous. Ce soir, on va encourager la France. Et puis, encore, en été, c'est Bouchetaville, il y a plein de choses peut-être prévues. Vous allez partir en vacances aussi, certainement. Ou peut-être pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment est-ce que vous voulez progresser? Ou être se contenter de là où vous êtes maintenant? Dieu nous lance un défi, non seulement pour cet été, mais en tout temps, de vivre avec ce Seigneur qui est si merveilleux. Il veut nous toucher, nous transformer, nous façonner à son image. Ouvrons notre cœur à cet esprit pour que nous soyons dans la plénitude de Dieu. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta présence. Nous avons chanté ce matin que tu étais notre roc, que nous devons bâtir sur cette roc qui reste inébranlable. Nous avons chanté aussi qu'il y aurait des tempêtes, qu'il y aurait des pluies qui s'abattront sur notre vie. Nous serons dans les difficultés, mais nous ne serons pas terrassés parce que tu es avec nous, parce que nous serons fondés sur ce roc inébranlable. Seigneur, entre dans ma vie, entièrement, pas dans une partie. Entièrement, sois mon Seigneur, mon Maître, et façonne-moi. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où je t'ai empêché d'entrer dans ma vie. Seigneur, au nom de Jésus, purifie mon cœur, purifie mes péchés. Merci, Seigneur, parce que tu ne te souviens même plus de mes péchés lorsque nous te demandons pardon. Merci, Seigneur, parce que nous devenons plus blancs que la neige par le sacrifice de Jésus-Christ qui a tout emporté, qui a tout porté à notre place. Seigneur, que ton nom soit loué. Béni pendant ces temps de repos, d'été, pour que nous puissions vraiment te désirer davantage, te ressembler, avoir cette relation fusionnelle, personnelle, au nom de Jésus. Amen.